Voilà, bonjour et bienvenue ce matin. Vous allez voir, de temps en temps, je vais passer de l'un à l'autre, j'espère que ça va aller. Bienvenue aux jeunes, salut. Il y en a d'autres, je crois, oui. Je ne sais pas trop jusqu'où est-ce que ça va, les jeunes. En tout cas, les plus jeunes, eux, ils sont là au début du culte et ils rejoindront leur groupe pour les potes après le temps de louange. Donc, bienvenue aux jeunes, aux plus jeunes, aux jeunes jusqu'où vous voulez. Et puis, du coup, bienvenue aux moins jeunes aussi. Ouais, alors je sais pas. Hein. Moi, cette semaine, je me sentais pas vraiment dans les plus jeunes non plus. Parce que j'étais pas en forme. Je crois qu'il y en a d'autres aussi. On est reconnaissant de pouvoir être là finalement ce matin, entre un petit passage aux urgences ou des nuits un petit peu courtes, qui font que voilà, on est reconnaissant de pouvoir être là quand même ce matin. Surtout que ce matin, au lieu de faire une grasse matinée, de profiter de se reposer, au lieu de faire un brunch ou une sortie en famille, au lieu de faire notre sortie hebdomadaire avec nos amis cyclistes et de nous arrêter à l'épicerie du coin pour finir autour d'une bière. Bon, ce matin, on s'arrête ensemble, on se retrouve ensemble, on se rassemble pour un culte. Un temps de rassemblement, et pourtant nous sommes tous différents. Et justement, c'est réjouissant de voir des gens avec toutes ces différences qui se rassemblent pour Dieu, lui qui a appelé toutes les nations à sa suite. Nous avons vécu différentes choses ces dernières semaines. Il y a des joies et des peines, il y a eu des deuils, certains difficiles, des naissances, peut-être aussi la maladie ou une nouvelle opportunité professionnelle. Nous avons tous un différent parcours, nous avons différentes origines, même parfois différentes langues. Des fois, on a un peu de peine à comprendre ou à se comprendre. Et pourtant, nous nous rassemblons en son nom. Ou plutôt, il nous rassemble en son nom. Et alors, je vous invite à prier. Seigneur, merci parce que tu nous rassembles. Tu nous accueilles tous, jeunes et moins jeunes, tels que nous sommes. Tu n'attends pas de nous que nous soyons parfaits, que nous fassions mille et une bonnes actions. Mais tu as tout fait déjà, tu as tout accompli pour nous. Alors au contraire, que nous puissions être conscients de tous nos manquements et que nous puissions réaliser combien ta grâce et ton amour pour nous sont grands et parfaits et combien nous en avons besoin. Et merci parce que c'est comme ça que tu nous permets de grandir en toi et que tu nous permets d'être à ton service, de devenir tes témoins ici et maintenant, dépendants de toi. Que tu bénisses ce temps de culte où nous voulons nous approcher de toi, te louer, t'adorer, mais aussi être à ton écoute et que tu nous transformes à ton image. Amen. Alors on va poursuivre avec un temps de louange. Merci. Les musiciens, chanteurs. Et je me disais qu'on pouvait commencer en se disant, peu importe les circonstances, Dieu est fidèle dans la maladie, la joie, la peine. Lui ne change pas, il reste fidèle et il se réjouit de ce que nous soyons rassemblés en son nom pour chanter ses louanges. Alors je vous invite à vous lever puis à chanter ce chant qui dit « Il est beau de louer le Seigneur ».
Oh, my time.
quand on devient parent, ce qui est assez nouveau pour Jessica et moi, il y a beaucoup de changements. C'est fini les nuits tranquilles, les matins où on se dit qu'on va pouvoir récupérer. Il y a facilement de la frustration quand on ne comprend pas ce qui se passe, quand on ne comprend pas les pleurs. Il faut une toute nouvelle organisation, repenser ses habitudes, ses activités. Et pourtant, ben ça se fait, on le fait. C'est pas toujours facile, mais on l'assume. Et on fait au mieux, il ne s'agit pas d'être parfait. Par contre, quand je rentre du travail et que je vois Ezra me sourire en me voyant, puis cette semaine, il a même dit une fois une sorte de papa. Hein? Oui, à peu près. Hein? Mais non, mais c'était quand même à peu près ça. En me voyant, ben, c'était vendredi soir, hein? Et ben, notre cœur, il est vraiment tout retourné. Il y a un lien, un amour qui est difficile à décrire. Et notre Dieu, dans la relation à notre Dieu, il y a aussi quelque chose qui est de cet ordre-là. Il est aussi notre Père, notre Papa. Et lui, il n'a pas besoin d'aller au travail la semaine. Enfin, il ne s'arrête pas de travailler, mais ça ne l'empêche pas d'être là. Mais quand on se retourne à son appel, qu'on tourne nos regards vers lui et qu'on l'appelle, il se réjouit. Il nous aime et il nous appelle à l'aimer en retour et à nous approcher de lui. Alors je vous invite à l'exprimer avec ce chant qui dit « Comment expliquer ?»
Comment expliquer?
C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout cet amour. Qu'on puisse également se réjouir de ce que ce Dieu Père, qui est aussi le Dieu puissant, créateur, merveilleux, qui est victorieux, même si on n'en a pas toujours l'impression, qu'on puisse se réjouir de tout cela en chantant « Grande et merveilleuse ».
Seigneur notre Dieu tout puissant, juste et véritable.
Et pour terminer ce temps de chant, de louange, qu'on puisse également s'engager à sa suite, à être à son écoute, à marcher à ses côtés. Et je vous invite à chanter « Ta bienveillance, j'écouterai ce que dit Dieu ». Voilà, pour poursuivre ce culte, on laisse aussi la place aux enfants pour qu'ils descendent rejoindre leurs potes. Voilà, merci aux moniteurs, merci aux enfants d'être présents aussi, merci aux parents d'être là avec vos enfants. C'est une richesse pour l'Église. Que vous soyez bénis et que ces groupes puissent bien se passer aussi. Voilà, nous sommes avec vous aussi en pensée et en prière. Voilà, avant de laisser la place à Thierry pour la prédication, je vais lire la lecture qui correspond à la parabole de la brebis, du mouton perdu et retrouvé. Voilà, parabole super connue. Jésus leur dit alors cette parabole. C'est dans Luc 15, versets 3 à 7. Si quelqu'un parmi vous possède 100 moutons et qu'il perde l'un d'entre eux, ne va-t-il pas laisser les 99, en fait, les 99 autres dans leur pâturage pour partir à la recherche de celui qui est perdu jusqu'à ce qu'il le retrouve? Et quand il l'a retrouvé, il est tout joyeux. Il met le mouton sur ses épaules, il rentre chez lui, puis appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé mon mouton, celui justement qui était perdu. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui commence une vie nouvelle que pour 99 justes qui n'en ont pas besoin. Je prie pour la suite de ce culte, Seigneur, que tu conduises Thierry. Merci de l'avoir conduit dans ce qu'il nous a préparé et que tu nous gardes chacun dans ta présence, à ton écoute, que tu travailles nos cœurs pour toujours mieux comprendre qui tu es, combien tu es grand, combien tu nous aimes. Amen.
Merci Joël, bonjour à tous et à toutes. Voilà, j'ai plus d'imprimante à la maison, alors j'emmène tout mon bureau avec moi. Alors tu peux seulement lancer le slide, voilà. Oui c'est bon, merci. Il y a trop d'églises à Genève. Vous êtes d'accord ? C'est incroyable, il y en a juste trop. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas à côté, par exemple en France voisine, où il n'y a pas d'église, ou presque pas? Vraiment, ça devient n'importe quoi. Ça, c'est des choses que j'ai entendues régulièrement, alors que j'ai commencé à venir sur Genève. Alors, peut-être que ça ne vous concerne pas, peut-être que personne ici ne pense ça, je ne sais pas. Mais je l'ai entendu plusieurs fois, sans vraiment que ça me touche. Et puis, un jour, on conduisait, et puis Dieu m'a interpellé par rapport à ça. J'ai réfléchi à cette question. Personnellement, je me suis toujours dit, bon, je ne suis pas tellement d'accord avec cette affirmation, mais voilà, je n'ai jamais été plus loin, je n'ai jamais réfléchi. Et puis, c'est comme si Dieu me disait, ben, vas-y, réfléchis, et puis, tout de suite après, il m'a mis à cœur ce passage de la brebis perdue. Ensuite, quand Roger m'a demandé si je voulais partager quelque chose à l'église, je me suis dit, ah bah tiens, j'ai déjà un sujet, c'est magnifique. Ça ne m'arrive pas souvent d'avoir le sujet avant qu'on me demande de parler. Alors voilà, je ne sais pas, peut-être que ça ne concerne que la ville de Genève, quelques individus certainement, mais je me suis dit, ça vaut le coup de regarder qu'est-ce qu'il y a derrière cette affirmation. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas vrai? Peut-être qu'il y a trop d'églises à Genève. Peut-être qu'il faudrait penser à aller un petit peu voir ailleurs où il y a moins d'églises. Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup ici. Alors voilà, j'ai commencé une réflexion autour de cette question qui m'a amené à méditer sur ce passage de la brebis perdue et puis les deux passages qui suivent aussi, qui est le passage de la drachme perdue ou de la pièce de monnaie perdue, et puis ensuite le fils prodigue qui était lui aussi perdu et retrouvé. Donc il y a trois histoires à la suite où Dieu parle de choses qui ont été perdues et retrouvées. Je vais faire ce signe-là. Comme ça, c'est une télécommande virtuelle pour changer de slide. Commençons par quelques chiffres. On dit, ou certains disent, qu'il y a trop d'églises à Genève. Alors, combien d'églises y a-t-il à Genève? Bon, ben justement, c'est difficile de le savoir parce qu'il y en a beaucoup, ce qui est une bonne nouvelle. J'ai été voir sur les sites un petit peu officiels, il y a 103 communautés protestantes évangéliques. Alors, ça ne correspond pas tout à fait à ce qu'on voit visuellement. Là, il y en a plus, je pense, parce que sur un autre site internet, on pouvait mettre différents filtres. Et là, ça inclut aussi les églises catholiques, etc. Donc, toutes les églises chrétiennes, j'ai envie de dire, qui suivent le christianisme. Donc là, il y en a certainement un petit peu plus. Mais c'est vrai qu'on peut voir qu'il y en a beaucoup par rapport à d'autres régions de la Suisse ou du monde. C'est assez incroyable. Ça, c'était donc les chiffres de 2013. Fin 2015, à Genève, il y avait 490 578 habitants dans le canton de Genève. Donc voilà, on a 103 communautés et puis on a 490 000 habitants. Genève, en ville, pour la première fois, a passé les 200 000 habitants fin 2015. Donc voilà, ça nous donne un petit peu une image de où est-ce qu'on en est à Genève, au niveau des églises, au niveau de la population. Ensuite, on pourrait se poser la question, Alors, qu'est-ce qu'une église? Si on dit qu'il y a trop d'églises, ou est-ce qu'il y en a trop, est-ce qu'il n'y en a pas trop? Bon, alors, qu'est-ce qu'une église? Mon but ici, ce n'est pas de donner une définition vraiment juste, mais c'est la définition que j'utilise dans mon étude et dans ce que je vais partager. Hein, j'ai pris une définition très simple. C'est un groupe de chrétiens qui se réunit au nom de Jésus, qui met en pratique ce qu'il a enseigné et puis qui continue la mission qu'il a commencée. Ça mériterait bien sûr bien d'autres choses pour définir l'Église, mais je vais m'en tenir à ça juste pour savoir de quoi on parle quand je dis « Ok, est-ce qu'il y a assez d'Églises ou pas assez d'Églises à Genève ?» Alors maintenant, comment savoir s'il y a trop d'Églises ? Pour pouvoir répondre à cette question, il faut savoir alors, à quel moment est-ce qu'il y en a trop ? Est-ce que c'est possible qu'il y en ait trop ? Et pour cela, on va regarder à notre texte. Joël l'a dit, c'est un texte bien connu, en tout cas bien connu de ceux qui ont grandi à l'Église, peut-être pas connu de tout le monde ici, je ne sais pas, mais c'est vrai que ceux qui ont grandi à l'Église et qui ont été à l'école du dimanche ont souvent entendu cette histoire, parce qu'elle est assez facile à comprendre. Hein, il y a ce Dieu, Père, qui va laisser ses 99 brebis pour aller chercher la brebis qui est perdue. Moi-même, j'ai souvent entendu cette histoire, à maintes reprises. Et c'est vrai que quand on aborde un texte comme ça, on se dit parfois, bon, voilà, je le connais, quoi. Qu'est-ce qu'il va encore m'apprendre, ce texte ? Mais j'ai été surpris, étonné par Dieu. Il m'a emmené dans une profondeur nouvelle par rapport à ce texte. Il m'a dévoilé un peu plus son cœur pour les perdus. Dieu est celui qui laisse les 99 brebis pour aller chercher la brebis perdue. Ma première réflexion en lisant ça, c'était, mais qu'est-ce qui se passe si un loup attaque les 99 brebis ? Le berger est peut-être un peu inconscient de laisser 99 brebis pour aller chercher une seule brebis. Humainement parlant, on se dirait, bon ben, c'est embêtant cette brebis qui s'est perdue, mais il faut que je m'occupe des 99. Il y en a 99, donc c'est plus important. Le texte ne le dit pas, mais certainement que les 99 brebis sont en sécurité. On le sait, on l'imagine. Elles sont à la maison, peut-être qu'il y a un enclos, peut-être qu'il y a des chiens qui sont là, qui gardent ce troupeau, et qui font fuir les loups. On ne le sait pas, mais on l'imagine. Et on sait que ce texte parle de nous, des enfants de Dieu. On sait qu'on est dans la présence du Père, qu'on est en sécurité. Et Dieu sait aussi que cette brebis, même si elle est toute seule, elle est en grand danger. C'est clair que les chrétiens, les brebis qui sont dans l'enclos, dans la bergerie, sont aussi en danger parfois. Il y a des tentations, il y a l'ennemi qui rôde autour de nous, qui est prêt à nous dévorer, mais il y a un danger bien plus grand pour cette brebis qui est hors du troupeau, qui est seule. Elle est exposée. Si elle fait un faux pas, elle peut tomber dans une falaise. Si un loup arrive, voilà, elle ne pourra rien faire, elle n'a aucun moyen de se défendre. Aucun frère et sœur, j'ai envie de dire, pour prendre soin d'elle, pour la soutenir. Donc Dieu sait qu'il y a urgence. Et on voit ça dans les deux autres histoires aussi. Il y a cette histoire de la pièce de monnaie perdue. Alors, j'ai estimé, c'est vraiment une estimation, qu'aujourd'hui on pourrait dire que ça équivaut à un billet de 200 francs. Hein, on pourrait dire que cette dame avait une somme de 2000 francs et puis elle a égaré 200 francs. Alors elle retourne sa maison, elle nettoie tout, elle ouvre tous les tiroirs, elle regarde sous les commodes pour retrouver ce billet jusqu'à ce qu'elle l'ait. Et quand elle l'a retrouvé, elle fait la fête, elle invite ses amis, parce que ça avait une grande valeur. Là aussi, on ne va pas se dire, bon, il me reste 1800 francs, alors finalement, ces 200 francs, ben voilà quoi, ils sont perdus, hein. Non, bien sûr que non. Rien ne va remplacer cette somme. Donc on va faire tout ce qu'on peut pour la retrouver. C'est la même chose avec Dieu. Quand il voit une brebis, une pièce de monnaie perdue, il fait tout ce qu'il peut pour aller la retrouver, pour aller la rechercher. L'histoire du fils prodigue qui part, qui dilapide l'héritage de son père, qui revient à la maison et qui accueille à bras ouverts, là aussi, c'est incroyable l'accueil qui lui est fait. On voit vraiment le cœur du père. Il y a le grand frère qui est jaloux, qui dit « Mais moi, je t'ai servi, j'étais fidèle, j'étais toujours là. Et puis voilà, ton fils qui a fait des mauvais choix, qui revient à la maison, tu l'accueilles mieux que moi. » Puis le père qui dit, mais non, mais toi, tu étais toujours là dans ma présence, tu avais tout à disposition, tu n'as pas compris. Hein, encore une fois, le père voit un fils qui était perdu. Le texte nous dit même qu'il était mort et qu'il est revenu à la vie. C'est ça que Dieu voit quand il voit les brebis perdues autour de nous. Ces brebis sont comme mortes, ou en tout cas, elles prennent ce chemin-là. Si elles continuent sur ce chemin, elles sont mortes spirituellement. Elles ne sont pas encore mortes physiquement aujourd'hui, mais elles vont mourir. Et c'est ça que Dieu voit. C'est pour ça que Jésus raconte ces histoires et qu'il met l'importance sur cette unité, cette brebis, cette pièce, ce fils qui revient. Donc ces trois textes mettent la même chose en commun. Ce qui était perdu est retrouvé. Et il y a une grande fête, il y a une sorte d'exubérance dans ces textes que j'ai un peu redécouvert. Encore une fois, il laisse les 99 brebis pour aller chercher la brebis qui est toute seule. On retourne toute la maison pour chercher le billet ou la pièce qui est perdue. Et il y a une fête incroyable qui est faite en l'honneur de ce fils qui revient. On tue le veau gras, on lui donne une robe, une bague. C'est waouh. Et Jésus le dit, il y a une plus grande joie dans le ciel pour un seul de ses petits qui revient à la vie, qui revient au Père, qui revient à la maison. Donc ces trois textes suscitent quelques questions en moi. J'espère que je ne suis pas perdu. Voilà. Pourquoi avons-nous tant de mal à aller chercher les brebis perdues autour de nous? Et là, je ne vous parle pas juste à moi, je me pose ces questions à moi. Ça fait la deuxième fois que je vous parle comme un évangéliste. En fait, je ne le suis pas du tout. C'est vraiment quelque chose qui est défiant pour moi. Donc voilà, Dieu me parle par rapport à tout ça aussi. Pourquoi avons-nous tant de mal à aller chercher les brebis perdues? Une hypothèse qui m'est venue, et on en a parlé un petit peu hier, j'ai vu qu'il y a quelque chose qui a été publié pour l'Église, c'est que nous vivons dans une société post-chrétienne. Ce qui n'est pas évident, franchement. On doit comme réapprendre à aller vers ces brebis perdues. Quand on regarde nos contemporains, on se dit, ils ont entendu parler de Dieu, ils ont entendu l'Évangile. En tout cas, on a cette impression. C'est souvent pas le cas, mais on a cette impression. On a été christianisés en Europe, en Suisse, et puis maintenant, les gens doivent faire des choix, et ils font des mauvais choix, c'est triste, mais on sait plus trop comment aller vers eux. On a l'impression que si on va vers eux, ils vont nous dire, j'en veux pas ton Dieu, je vis bien. Donc on doit trouver d'autres moyens d'aller vers nos frères et sœurs, vers ceux qui sont perdus. Nous avons un certain confort, nous avons certaines peurs aussi qu'il faut surpasser pour aller vers ces brebis perdues. On voit vraiment que Dieu, encore une fois, fait tout son possible pour aller chercher ces brebis perdues. Est-ce que nous faisons tout notre possible pour aller chercher ces brebis perdues? Une autre question. La bergerie est-elle prête à accueillir les brebis perdues? Hier, on avait un temps de prière et de discussion par rapport à l'Église, le groupe mouvement, tout ce travail qui est fait. C'était un peu une des questions qui était posée aussi. Est-ce que nous sommes prêts en tant qu'Église à accueillir des gens qui peut-être vont se convertir, qui vont venir ici pour la première fois? Des musulmans, des punks, des drogués, je ne sais pas ce que Dieu va nous envoyer, va nous confier. Est-ce que nous sommes prêts à accueillir ces gens? Là aussi, ça peut mettre à mal notre confort, notre routine, nos traditions. Elles ne sont pas forcément mauvaises, mais peut-être qu'elles vont être un peu ébranlées. Est-ce que nous sommes prêts à cela pour atteindre ce but d'accueillir ces brebis perdues? J'ai beaucoup aimé l'histoire de Joël, l'exemple qu'il a donné tout à l'heure. Quand on accueille un nouvel enfant dans la maison, c'est l'explosion. Tout change. Nous avions des traditions, des habitudes, on aimait bien dormir un petit peu le matin. C'était assez flexible, et tout à coup, tout cela change. Ce n'est pas une mauvaise chose, au contraire, c'est une très bonne chose d'accueillir un enfant dans la maison. Eh bien, c'est la même chose dans l'Église. Il y a des saisons, il y a des choses qui arrivent et qui font qu'on doit se laisser défier, se laisser changer pour pouvoir accueillir ces nouvelles choses. Que sommes-nous prêts à entreprendre pour retrouver ces brebis? Ses pièces perdues, ses fils et ses filles perdues. Comment est-ce que nous allons réagir quand les fils prodigues vont revenir à la maison? Est-ce qu'on va les accueillir? Est-ce qu'on va faire la fête? Ou est-ce qu'on va se dire, voilà, il est un peu bizarre celui-là. En plus, il est habillé, cette fille-là, un petit peu trop, son décolleté est un peu trop grand, ou bien, il a des tatouages partout, Comment est-ce qu'on va réagir? On ne sait pas ce que Dieu va nous envoyer. Alors revenons à notre question. À la lumière de ces textes, pensez-vous qu'il y ait trop d'églises à Genève? Attention, si vous répondez mal, je vais recommencer mon message. Vous avez le droit de me répondre. Est-ce qu'il y a trop d'églises à Genève? Ok, deux, trois non timides, merci. Personnellement, je pense que ce n'est pas le cas. Non, absolument pas. Avec le nombre actuel d'églises ou de communautés qu'il y a à Genève, avec le standard de Dieu, hein, le standard de Dieu qui est, s'il y a une brebis perdue, il faut aller la chercher. Nous, notre standard, on se dirait, ah, 99% de convertis à Genève, c'est bon quoi, Jésus peut revenir, on a fini le travail. Bon, on en est loin, hein, on est d'accord. Donc si on compare le nombre d'églises avec le standard de Dieu, il faudrait que chaque communauté ait 4762 membres. Non, bon, on n'y est pas encore, hein. Maintenant, je sais que j'exagère, je sais qu'il peut y avoir toutes sortes d'autres moyens d'atteindre ces gens. Pour moi, une église n'est pas forcément... Voilà ce que nous représentons ici, ça peut être des églises de maison, des petits groupes qui se réunissent, qui prient ensemble, mais c'est sûr qu'il n'y en a pas assez. C'est sûr, sûr, sûr. Maintenant, est-ce qu'il n'y en a pas assez en France? Alors ça, c'est encore plus sûr. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de croître à Genève. Donc, sachant qu'il n'y a pas assez d'églises à Genève, pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'il y a trop d'églises à Genève? En tout cas, pourquoi est-ce que certaines personnes ont cette impression? Là encore, j'ai quelques hypothèses qui ne sont que des hypothèses. Et j'espère ne pas trop vous choquer avec ce que je vais dire. Mais voilà, des fois j'aime bien secouer un peu la maison, juste pour la secouer. Je pense que parfois, nos églises sont un peu des clubs pour chrétiens. En tout cas, ils le deviennent. Et ce n'est pas qu'on a choisi cela. Hein, on est un peu devenu avec la force des choses. On a pris des habitudes, on a nos amis, notre famille, et c'est très bien, c'est comme ça que ça devrait être. Et puis, petit à petit, on devient un peu comme hermétique à ce qui est externe, à ce qui est différent. C'est pas mal, c'est pas d'avoir voulu cela. Hein? Mais petit à petit, avec les années, on en arrive à ce point-là. Et il faut faire attention. Il faut se dire, est-ce qu'on est devenu trop hermétique? Ou est-ce qu'on est prêt à accueillir ce qu'il y a là-dehors? Dans nos murs, et à changer s'il le faut pour accueillir cela. Je crois que quelque chose qui se passe aussi dans nos églises, c'est que nous avons parfois peur de perdre des membres. Parce qu'on se dit, s'il y a de nouvelles églises, vu qu'on n'est pas toujours très fort pour l'évangélisation et pour amener de nouvelles brebis ou des brebis perdues dans nos églises, et bien ce qui se passe, c'est qu'il y a des échanges de membres entre églises. Au lieu de multiplier, comme Dieu nous le demande, on fait des additions, des soustractions. Hein? Moins d'eux ici, plus de là-bas. Ou alors on fait même des divisions parfois dans nos églises. Tout à coup, on divise l'église. Et la moitié qui part. Ce n'est pas ça qu'on devrait vivre. Mais c'est souvent ce qu'on vit. Et je crois que c'est une peur que certains ont dans l'église. Quand ils voient de nouvelles communautés, parce qu'ils se disent, mais elle va grandir comment cette communauté? Elle va nous piquer des membres? Peut-être, je ne sais pas. Au lieu d'avoir peur de ce qui se passe ailleurs, peur de cette nouvelle église, qui souvent marche assez bien, c'est vrai, célébrons Dieu, célébrons ces nouvelles églises qui grandissent. C'est vrai, parfois, trop souvent, de chrétiens, déjà chrétiens, mais aussi qui ont des nouveaux convertis. Et regardons aussi comment ils font les choses, peut-être qu'on peut s'en inspirer. Mais je crois qu'on n'est pas appelé à être jaloux, comme les pharisiens étaient souvent jaloux hein, de Jésus et de son ministère, qui était très critiqué, parce que eux étaient l'Église de l'époque. Et quand Jésus est venu, ils ont vu toute sa réussite, tout ce qu'il faisait, les foules étaient attirées à lui. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les pharisiens? Ils ne l'ont pas reconnu. Alors attention à ne pas faire la même chose. Je ne dis pas que ces églises représentent une deuxième venue de Jésus, mais si c'est de Dieu, il faut accueillir cela comme étant de Dieu. Si ce n'est pas de Dieu, alors voilà, il faut voir. Mais personnellement, je crois que toutes les églises, en tout cas dont j'entends parler et qui naissent, je crois qu'elles sont de Dieu. même si elles sont très différentes dans leur manière de vivre les cultes et tout ça. Je crois qu'on a aussi cette impression qu'il y a trop d'églises parce qu'on ne voit pas ce que Dieu voit. On ne voit pas ces brebis perdues comme lui, il les voit. Souvent, on se concentre plus sur les brebis qui sont sauvées. On se concentre sur les 99. On prend soin de la bergerie, ce qui est bien, ce qui est utile, ce qu'il faut faire. Et puis, l'accent est peut-être moindre sur la brebis perdue. Tandis que lui, en tout cas dans ses textes, semble faire le contraire. Il est prêt à laisser les 99 pour aller chercher celle qui est perdue. Donc on n'a pas le même standard que Dieu. Alors, que faire? Je crois qu'il faut faire du travail de qualité qui produit de la quantité. Il ne faut pas opposer les deux. Parfois, on a tendance à opposer les deux. On se dit, soit il faut faire des disciples, et puis les nourrir, faire du travail de qualité, puis finalement, ce n'est pas grave s'il n'y a pas un grand nombre dans l'Église. Ce qu'il faut, c'est des gens mûrs. Puis d'autres diront, non, il faut un grand nombre, il faut des méga church de 1000 personnes. Je crois qu'il ne faut pas opposer les deux. Je crois que des chrétiens matures, des disciples, devraient amener à la quantité, en fait. Je vous montre juste un graphique, là. Tu peux mettre la suivante. Que j'ai trouvé très intéressant, que j'ai entendu, là, que j'ai vu là, l'année passée. C'est un graphique qui montre la croissance mondiale. Et que je trouve très impressionnant quand on voit ça visuellement. On voit l'histoire un petit peu, depuis Jésus, je ne sais plus où ça commence. Mais en tout cas, on voit que là, tout à coup, ça monte en flèche. Donc on dirait que les terriens ont pris à cœur le commandement de Jésus de multiplier, de remplir la terre. Est-ce que nous, en tant que chrétiens, on a la même courbe de croissance? Ou est-ce qu'on est complètement dépassé? C'est une question qu'on doit se poser. On est censé enseigner, faire des disciples de toutes ces personnes. Donc, il faut absolument qu'on fasse des disciples qui font des disciples, qui font des disciples. On doit multiplier. C'est ce qui se passe dans le monde. Si nous, en tant qu'Église, on ne multiplie pas, si on ne multiplie pas les églises, les communautés, les disciples, on va être largués. On est peut-être déjà un petit peu largué, donc il faut y aller, il faut multiplier, on n'a pas le choix. Il ne s'agit pas de multiplier les bâtiments, encore une fois, mais vraiment de faire des faiseurs de disciples. C'est ce que, je retrouve ma référence, c'est ce qu'on voit dans 2 Timothée 2:2. Juste lire ce passage rapidement. Où Paul est en train de décrire à Timothée et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Donc Timothée doit enseigner ça à des hommes fidèles qui seront capables de l'enseigner à d'autres. Il y a ce principe de la multiplication. Donc réjouissons-nous quand il y a des nouvelles communautés qui voient le jour à Genève. Célébrons cela. Ne soyons pas comme les pharisiens qui critiquaient Jésus. Je vais terminer avec deux textes. Le premier dans 1 Timothée 2. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Encore une fois, on voit le standard de Dieu. Tous les hommes. Et puis un autre texte dans 2 Pierre 3, 8 à 9. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à leur repentance. Encore une fois, il veut que tous arrivent à la repentance. Souvent on dit, vivement que Jésus revienne. C'est vrai, on se réjouit que Jésus revienne. Mais Jésus, lui, ou Dieu, le Père, il retarde cette échéance parce qu'il voit tous les perdus. Donc si on veut accélérer le retour de Jésus, il faut accélérer notre évangélisation. Il faut aller atteindre ces brebis perdues. Juste pour que Dieu puisse dire, ok, maintenant c'est le temps. Je vous propose de prier pendant quelques instants. Priez pour cette communauté, priez pour les communautés à Genève. Priez pour que son œuvre grandisse, pour qu'elle multiplie, à Genève et au-delà, bien sûr. Priez pour que Dieu fasse de nous des disciples qui faisons des disciples. Priez pour qu'il nous aide à faire de la place dans nos cœurs et dans notre Église pour accueillir ces brebis perdues. Puis, voilà, dites-lui simplement ce que vous avez sur le cœur. Seigneur Jésus, bien souvent je suis conscient de ton standard, conscient de ce que tu m'appelles à faire, mais je me sens désarmé, démuni, je ne sais pas vraiment comment avancer, quelle est la prochaine étape, comment aller chercher ces brebis perdues, comment avoir ce cœur que toi tu as pour ces brebis perdues. Alors je te prie que tu m'aides, que tu nous aides à recevoir ton cœur, à recevoir ton courage aussi pour aller vers ces gens. Donne-nous la créativité dont nous avons besoin aussi pour trouver peut-être la manière qui va fonctionner mieux qu'une autre. Seigneur, viens à notre aide, viens à notre secours.
placé depuis de nombreuses années. C'est vrai, nous reconnaissons que nous avons peu d'impact avec cette foule qui nous entoure, que nous rencontrons tous les jours. Et nous demandons au Seigneur de nous ouvrir des portes pour pouvoir transmettre ce qui nous habite, pour transmettre cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Seigneur, sois notre secours. Inspire-nous, conduis-nous, conduis cette communauté. Nous demandons au nom de Jésus-Christ. Amen.
Et s'il y a des brebis perdues parmi nous, revenez à la maison, revenez à la bergerie. Que vous soyez égarés pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois, que vous ne soyez peut-être jamais venus à la bergerie, à la maison, aujourd'hui, chaque jour est une occasion de revenir à la bergerie. Dieu le Père nous invite, il nous attend, il est prêt à faire la fête pour nous accueillir. Si c'est votre cas, si vous auriez envie de revenir à la maison ce matin, j'aimerais pouvoir prier avec vous et peut-être d'autres à la fin du culte. Avancez-vous simplement. Ne repoussez pas à plus tard, ne repoussez pas au lendemain, mais venez aujourd'hui, rentrez à la maison.
Ça semble un programme exigeant. Et en même temps, cette brebis perdue, effectivement, ça a été moi, ça a été chacun de nous qui nous retrouvons ici. Dieu est venu nous chercher chacun personnellement. Et alors maintenant, à nous de faire tout notre possible aussi pour effectivement, aller récupérer cette autre brebis perdue, cette autre personne. Et c'est effectivement la réflexion qu'on a en Église. Et il y a du travail encore. Et nous voulons pour poursuivre, nous remémorer justement ce qui est au centre de notre foi, ce temps de scène, au centre de la Bible, et je l'espère aussi au centre de nos vies, ce qui fait notre vie de chrétien, notre vie d'Église. Et c'est une folie pour les hommes. Des fois, même assez souvent en y pensant, je me dis effectivement, c'est vraiment fou. Un Dieu, le Dieu, pas juste un Dieu, le Dieu qui se fait homme, qui vit parmi son peuple, comme s'ils étaient ses frères, qui souffrent le martyr, qui meurent, mais qui ressuscitent d'entre les morts, seul juste, et qui montent au ciel, premier d'une multitude. Ça ne sonne pas vraiment sensé comme plan. Et pourtant, c'est de la sagesse. Sagesse de Dieu, source de vie, intelligence de Dieu. Alors nous voulons célébrer cette folie pour les hommes, ce plan parfait de Dieu pour nous donner la vie par sa justice. Et je vais lire l'institution dans Matthieu 26. Pendant le repas, Jésus prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le donna à ses disciples. Il leur dit, « Prenez et mangez ceci, c'est mon corps. » Il prit ensuite une coupe de vin et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang qui garantit l'alliance de Dieu et qui est versé pour une multitude de gens, pour le pardon des péchés. Je vous le déclare dès maintenant, je ne boirai plus de ce vin jusqu'au jour où je boirai avec vous le vin nouveau dans le royaume de mon Père. » Je vous invite à prier. Seigneur, nous voulons nous souvenir de ton sacrifice, ce pain qui est symbole de ton corps brisé pour nous, ce vin qui représente ton sang versé pour nous purifier. Tu as donné ta vie pour nous racheter, pour que nous puissions paraître, que nous puissions être justes à tes yeux. Tu as donné ta vie pour que nous puissions vivre, vivre près de toi. Merci Seigneur, que tu nous permettes de réaliser toujours mieux ce que cela veut dire, ce que cela implique aussi personnellement dans nos vies et en communauté. Que cela illumine nos vies à chacun, comme notre Église. Amen. Alors, on va passer avec le vin, le pain, et pour le vin, comme d'habitude, il y a les plateaux avec au centre le jus de raisin dans les gobelets colorés. Et si vous désirez la coupe, faites signe. Pendant ce temps, nous invitons à continuer à prier ou à vous remettre à Dieu en étant dans sa présence. Voilà, si deux personnes peuvent nous rejoindre pour nous aider, volontiers.
Seigneur Jésus, merci pour ton sacrifice à la croix. Seigneur, que ce sacrifice ne devienne jamais juste une tradition dans nos vies, mais qu'on puisse toujours plus réaliser ce que tu as accompli. La liberté que tu nous as donnée d'être enfant de Dieu, d'être adopté, d'être accueilli dans cette bergerie, dans cette maison, dans ta présence, Père. Que nous puissions en profiter pleinement aujourd'hui, cette semaine. Merci, gloire à toi. Amen.
Nous allons prendre un temps pour récolter l'offrande, un temps où nous rendons à Dieu une partie de nos biens, comme un don, un cadeau que nous voulons lui faire, lui qui nous a déjà tout donné, comme un cadeau pour lui, mais aussi en souhaitant que cet argent puisse servir ses projets. Et nous allons chanter pendant ce temps le chant qui dit « Je suis né pour te louer ». Alors je vous invite à vous lever. Merci Seigneur parce que tu veilles sur nous, parce que tu prends soin de nous. Merci pour toutes les bénédictions matérielles dont nous pouvons profiter et permets que cet argent puisse être utile à ceux qui en ont besoin, certainement plus que nous, ou en tout cas plus que moi, et qu'il puisse être utile à ton royaume. Nous t'en prions Seigneur, reviens bientôt et que ton règne vienne. Amen. Voilà, je vous laisse reprendre place, nous passons aux annonces. Merci Michel.
Alors les annonces de ce jour. Samedi 17, donc samedi prochain, un cours enseigner le français aux réfugiés. C'est une méthode mise au point par Wycliffe et qui sera présentée ici par une experte de Wycliffe. Vous pouvez, si ça vous intéresse, vous adresser à Dominique Sowell. Dominique n'est pas là. Alors, à Eliane Pfund. Si vous voulez vous inscrire, c'est aujourd'hui vraiment. Voilà, samedi 17 septembre également, mariage de Sophie Lambert, Clément Bourgeois, qui, vous le voyez, se penche sur les mystères du mariage. Le mardi 20 septembre, formation de disciples, sur le thème, ce sera l'épître de Jacques. Si vous voulez rejoindre ce groupe, vous pouvez vous adresser soit à Sylvain Wenger, soit à Roger Sowell. Samedi 24 septembre, la journée de porte ouverte, c'est à Yverdon. Vous avez là les informations principales, c'est de 13h à 20h. Et mercredi 28, une soirée particulière du groupe de jeunes cet été.
Merci. Le 28 septembre, on va faire une soirée témoignage entre vous et les jeunes. Donc, en fait, on recherche des gens qui seraient d'accord de venir témoigner auprès de nos jeunes, votre vie, votre vécu, ou voilà, si vous avez envie de partager quelque chose. Venez vers moi ou Elisa à la fin du culte et on récoltera vos noms et adresses pour pouvoir, adresse mail pour pouvoir vous recommuniquer avec vous. Si vous avez envie aussi un jour, pas spécialement le 28, mais un autre jour de l'année, venir faire un témoignage ou parler d'un sujet dans notre groupe de jeunes, c'est avec grand plaisir. Je vous laisse aussi venir vers nous et comme ça on notera pour garder vos noms et vous rappeler si jamais on a un créneau de libre pour votre sujet. Voilà, merci.
Merci. Et puis le dimanche qui suit, le dimanche 2 octobre, un culte particulier, un récital de textes.
Oui, c'est très particulier. Je remercie le conseil et puis Roger Sevel d'être entré dans cette histoire. Ce comédien n'est pas chrétien. Enfin, il n'est pas tout à fait encore chrétien. C'est mon voisin de palier. On a discuté depuis presque 2 ans. Il a commencé à prier dans son travail. Il a des réponses de prière et il se réjouit beaucoup de lire des textes bibliques pour nous. Donc, si vous avez vu le film « Sauver le soldat Ryan », c'est un petit peu ce qui va se passer le 2 octobre. Vous êtes invité à écouter quelqu'un qui vient de l'extérieur et vous allez prier pour lui pendant qu'il lit les textes. Et il vient, en fait, on fait venir le monde de notre église directement, donc, et vous allez prier pour que vraiment il puisse progresser dans sa vie spirituelle, parce qu'il est en progression. Donc voilà, entre autres, il y aura 40-45 minutes de lecture. De lecture, il y aura une introduction musicale, 45 minutes à peu près de lecture de texte autour du thème de David. Donc c'est uniquement des lectures de texte. Il y aura juste quelques phrases d'introduction pour que les gens comprennent à quel moment ça se passe. Et après, on va faire une entracte et il y aura une partie cultuelle, c'est-à-dire le culte, sans prédication, sans sainte scène. J'expliquerai pourquoi après. Donc après ces 10 minutes. Donc après la première partie, il y a un apéro. Ça veut dire que vous pouvez inviter des gens de l'extérieur. Ça, c'est la deuxième chose. Des gens de l'extérieur disent, venez, venez, il y a des textes bibliques qu'on va lire. C'est un comédien. Il a joué le dernier truc, le comédien, il a joué la comédie. Donc, dans le Roi Lear. Donc, de Shakespeare. C'est un très, très bon niveau de comédien. Et pouvait dire, venez, il va lire des textes bibliques, un comédien, voilà. Et comme ça, après, il y a un apéro. Les gens qui veulent pas suivre la partie culturelle, vous continuez dehors à prendre l'apéro. Donc on offre un choix. Et peut-être il y a des gens qui vont venir, qui vont être curieux, vont dire, ah oui, j'aimerais quand même voir ce qui se passe dans cette deuxième partie. Hein? Mais pour les gens, vous dites, venez, il y aura un comédien qui va lire des textes, il y a un apéro après, et puis vous dire, bon, moi, après, si vous, pour les gens, pour les habitués, pour les grenouilles de bénitier, il y a la petite partie culturelle à la fin. Voilà. Donc, c'est une action d'évangélisation aussi. Merci. Donc, c'est pendant le culte, à 10h, comme d'habitude.
Voilà. Et une dernière annonce. Ce plat d'inox a disparu, l'avez-vous vu? Si jamais, contact auprès d'Annie, de Claire-Lise ou de Dominique, je crois qu'il n'y a que Claire-Lise aujourd'hui. Voilà, merci.
Voilà, si vous en avez encore les forces, levez-vous. Levez-vous et allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin des jours. Alors allez, soyez bénis, comme Jésus a envoyé ses disciples, il vous envoie aujourd'hui, dans cette journée, dans cette semaine, soyez bénis et soyez aussi un objet de bénédiction pour ceux qui vous entourent. N'oubliez pas de vous approcher si vous désirez recevoir la prière. Voilà. Bon dimanche.